Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, et le nouveau commissaire Jacques Billon ont officiellement ouvert ce matin la 27e édition de la fête du cerf et de la crevette à Bouloupari. C'est ce matin que Jacques Billon a pris ses fonctions de haut commissaire, une prise de fonction officielle lors d'une cérémonie de dépôt de gerbe à la Croix de Lorraine. À la fin de l'exercice Croix du Sud 2025, pendant 12 jours, les militaires de 18 nations ont participé à cet exercice interallié et interarmé qui, pour la première fois, s'est déroulé en grande partie à Wallis et Futuna. En métropole, on n'en sait plus sur les circonstances de l'assassinat d'Aboubacar Cissé. Son meurtrier lui a asséné 57 coups de couteau. Le parquet national antiterroriste ne sera finalement pas saisi. Le PIB des États-Unis entre les gerbes au premier semestre. La politique protectionniste de Donald Trump semble peser sur l'économie des États-Unis. Les grandes entreprises américaines commencent à s'inquiéter. Et puis le sport et la Formule 1 avec le Grand Prix de Miami aux États-Unis. Ce matin, le jeune Kimi Antonelli, 18 ans, a signé la pole position de la course sprint au volant de sa Mercedes. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal à Bouloupari. Le ministre des Outre-mer était présent ce matin à l'ouverture officielle de la 27e édition de la fête du cerf et de la crevette. Présent également lors de l'inauguration officielle, le nouveau commissaire Jacques Billon, mais aussi plusieurs élus. Tous ont accompagné le ministre Manuel Valls à visiter les différents stands installés sur le site.
C'est une belle matinée, d'abord parce que nous recevons le nouveau haut-commissaire, qui est juste débarqué de l'avion, M. Jacques Billon, qui a déjà pu assister à cérémonie patriotique avec le dépôt de la gerbe à Nouméa. Et puis, je crois que c'est un beau symbole. Nous soyons ici à cette 27e foire de Bouloupari, à cette fête de la crevette et du cerf, parce que ici, on est au cœur, au fond, de la Nouvelle-Calédonie, dans une commune où il fait bon vivre ensemble. Et on retrouve au fond toutes les origines qui font la richesse de la Nouvelle-Calédonie. Toutes ces activités aussi économiques, artisanales, agricoles. Et c'est aussi un symbole de dire que la Nouvelle-Calédonie a un potentiel et que c'est à travers ce type d'exemple qu'on trouvera, je l'espère, le chemin de la sagesse et de l'intérêt général. Voilà, c'est pour ça que je suis heureux d'être là.
Comment vous l'avez trouvé cette fête, du cerf de la crevette ?
Il faut goûter. Vous savez, moi, j'étais un élu local, j'étais un maire, donc j'aime beaucoup ce type de rencontre. Et on goûte les produits locaux. Et donc, c'est entre le piment, le cerf, le saucisson, les produits sucrés. Ça fait un drôle de mélange, mais c'est bon pour le palais. Ça donne de l'énergie et de la force avec quelques produits artisanaux.
Et bien évidemment, de nombreuses animations sont présentées à tout, dans cette foire. Le traditionnel dépeçage de cerf ou encore le lancer de claquettes pour le maire de Bouloupari, Pascal Vittori. Cette fête du cerf et de la crevette a très bien commencé.
Ça s'est très bien passé. Je crois qu'il était heureux d'être là au milieu des Calédoniens à Bouloupari. Ça lui a permis de rencontrer beaucoup de monde, de discuter et puis de goûter les spécialités locales. Je pense que c'était une belle demi-journée. Ce qu'il a pu constater, c'est qu'effectivement, en brousse, les gens se côtoient, les gens vivent ensemble. Donc ça lui a donné des idées pour les négociations qu'il essaie de mener. C'est-à-dire que c'est ce qu'il voudrait pour la Nouvelle-Calédonie, c'est que les gens arrivent à vivre ensemble dans la paix et dans la fraternité.
Et on le disait, plusieurs élus étaient donc présents ce matin pour l'inauguration officielle de cette fête du cerf et de la crevette à Bouloupari. Parmi eux, le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf. Pour lui, cette fête à Bouloupari, c'est le terroir de la Calédonie qui est présenté.
Toujours un moment important pour la Nouvelle-Calédonie. Pour moi, c'est la brousse, c'est le terroir. Donc c'est toujours un plaisir pour moi d'être là parmi les Calédoniens. Quand il s'agit du fête de la cerf et de la crevette, ça va bien. Tout va bien, bonne ambiance, il fait bon. Il y a plein à manger, il y a plein à boire, il y a plein de stands. Voilà, donc c'est super.
Et dès l'ouverture de cette fête du cerf, dès 8h ce matin, les Calédoniens étaient nombreux à circuler sur l'hippodrome municipal. Les exposants étaient nombreux également à présenter sur leurs étals divers produits artisanaux, produits vivriers, de la charcuterie, mais encore des fruits et légumes de saison.
Super, c'est très bien. Tant qu'on n'a pas la pluie, c'est déjà le principal.
Venu regarder les animaux, lapins. Les lapins, des chèvres et du cheval.
Balader, puis pour les enfants surtout, pour les animaux. Voilà, les cerfs, c'est la saison des cornemoles, les meilleurs.
Très bien, je m'attendais pas à autant de monde. Très convivial et il y a des bonnes spécialités à déguster. Là, je viens d'acheter des hachards de troca. Et après, on va goûter les tartes à la crevette, les spécialités de cerf, etc.
Alors, monsieur, qu'est-ce que vous êtes venu chercher là ?
Des crevettes. Ah, faut voir ça avec la chef.
Alors là, spécialement pour les crevettes et du cerf, s'il y en a.
Et après, on va regarder aussi les stands des partisans qui sont là.
On est venu chercher des crevettes. Et on en a pris 6 kilos. Puis faire promener les enfants pour se balader un peu, les sortir.
Et la première journée de la 27e fête du surf et de la crevette va refermer ses portes d'ici quelques instants. La fête qui reprendra demain, ce sera entre 8h et 16h sur l'hippodrome de Bouloupari. Il avait pris ses fonctions le 6 février 2023, après 2 années de service, marquées notamment par la crise insurrectionnelle de 2024. Louis Lefranc a quitté le territoire pour rejoindre la métropole hier soir. Il lègue sa place à Jacques Billon, ancien préfet du Pas-de-Calais. Le nouveau commissaire a débarqué la nuit dernière. Il a débuté sa mission sur le territoire par un dépôt de gerbes à la Croix-de-Lorraine ce matin, accompagné du ministre Manuel Valls. Jacques Billon a été accueilli par de très nombreux élus et représentants des forces civiles et militaires. La cérémonie est restée sobre. Le commissaire n'a pas pour l'instant tenu à s'exprimer. Les élus aussi ont gardé le silence. Virginie Ruffneck a tout de même salué l'arrivée du nouveau haut-commissaire. Une mission importante l'attend.
Il prend la suite d'un haut-commissaire qui a marqué la Nouvelle-Calédonie dans un temps de crise très fort, avec Louis Lefranc qui avait assumé de très lourdes responsabilités. Nous voyons que nous avons des parcours similaires et que Jacques Billon est très ouvert. Nous avons déjà été plusieurs fois en contact avec lui avant même qu'il arrive en Nouvelle-Calédonie. Donc on le sent avec une volonté de s'engager auprès des Calédoniens et de s'investir. Et évidemment, nous serons à ses côtés pour faire valoir aussi que les Calédoniens ont le droit à l'ordre républicain, qu'ils ont le droit d'être en sécurité dans ce pays, qu'ils ont le droit d'être protégés, parce que c'est une mission régalienne fondamentale de l'État, qui est indispensable, et la sécurité en Nouvelle-Calédonie à toute construction de vie, qu'il s'agisse des personnes qui fondent leur famille ou des entreprises qui veulent s'installer en Nouvelle-Calédonie. Et donc à ce titre, les responsabilités exercées par le haut-commissaire sont fondamentales pour l'ensemble des Calédoniens.
La cérémonie se tenait à 7h30 ce matin au pied de la Croix-de-Lorraine. Jacques Billon a commencé par saluer Sonia Lagarde, le maire de Nouméa. Il a ensuite rencontré les élus avec lesquels il a pu échanger quelques mots de bienvenue. Étaient présents le député Nicolas Metzdorf, le sénateur Georges Naturel, la vice-présidente du Congrès, Virginie Ruffneck, que vous venez d'entendre, le président du gouvernement, Alcide Ponga, et la présidente de la province sud, Sonia Baquès. Le membre du gouvernement, Christopher Gigès, a également assisté à la cérémonie. Aucun élu indépendantiste n'était en revanche présent. Du côté des autorités civiles et militaires, le général Pierre Poty, commandant de la gendarmerie outre-mer, avait fait le déplacement. Il était accompagné du général Mathéos, le commandant de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie, et du général Latil, le commandant des forces armées en Nouvelle-Calédonie. On notera également la présence de Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France dans le Pacifique, celle de la directrice de la police nationale de Nouméa, Marjorie Ghisoli, ainsi que du procureur de la République, Yves Dupas. C'est la fin d'un exercice grandeur nature. Après 12 jours de simulation de catastrophe naturelle à Wallis et Futuna, l'opération Croix du Sud touche à sa fin. Hier, les représentants des forces armées des 18 nations participantes ont fait le bilan de l'exercice au cours du VIP Day à Wallis. Mais c'est aujourd'hui à Nouméa qu'il se clôture officiellement. Ce matin, les forces armées et ONG étaient réunies à la base Chalex pour détailler les aspects logistiques de l'opération. Charlotte Coulsonf.
Oui, cette 11e édition de l'exercice Croix du Sud est, comme à chaque fois, une opération conséquente à mettre en œuvre. Près de 3000 hommes ont été déployés sur l'archipel et 150 tonnes de matériel envoyé au cours de ces 2 semaines de simulation. Il a donc fallu réaliser un travail de coordination important, un vrai challenge pour le lieutenant-colonel Swadji. Elle est chef de la logistique des forces armées en Nouvelle-Calédonie.
Déployer 1000 hommes venus de partout avec 150 tonnes de matériel, ça reste un challenge de le déployer à 2000 km d'ici avec toutes les contraintes aériennes, maritimes, les contraintes administratives, douanières, phytosanitaires et PAF. Et il a fallu coordonner pour être sur objectif. Nous avons réussi, nous avons déployé ces Land Group et ces ONG toutes les 48 heures sur les 4 phases qui avaient été donc mentionnées. La phase donc de reconnaissance avec le saut en parachute, la phase de déblaiement et d'évacuation et de dégagement des routes et la phase d'évacuation sanitaire et enfin la phase d'évacuation info du CRER. Donc à partir de là, on a pu regrouper la population et puis les orienter vers une évacuation suite à une catastrophe naturelle.
Et parmi les moyens déployés qui ont permis le succès de l'opération. Des mini-drones de reconnaissance étaient pilotés par la section drone au RIMAPNC. Ce système existe depuis de nombreuses années déjà, mais il est de plus en plus utilisé dans les missions humanitaires. Les engins étaient présentés ce matin aux forces armées des 18 nations participantes réunies à la base Chalex. Et c'est le lieutenant Arnaud qui était aux manettes. Il est le chef de la section drone au RIMAPNC.
Notre mission principale, c'est d'acquérir les informations dont a besoin notre chef pour conduire ses opérations. Typiquement, la mission, ça va être de reconnaître les axes de communication, les routes, déterminer s'ils sont praticables, rechercher des zones où il y aurait eu des destructions en raison des catastrophes naturelles, climatiques, les incendies, ce genre de choses, de manière à ce que le chef, à l'échelon supérieur, puisse orienter ses troupes, ses efforts, pour intervenir sur ces éléments. On a été déployé à partir de l'aérodrome de Wallis-Ifo. C'est de là qu'on les faisait décoller. Et compte tenu de la taille de l'île, qui est quand même relativement petite, on a été en mesure de couvrir l'intégralité de la surface de Wallis.
Évidemment, cette opération de simulation de catastrophe naturelle n'aurait pas été possible sans la participation des ONG. Parmi elles, le Secours catholique, l'Ordre de Malte, la Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie ou encore la Croix-Rouge française qui a pu tester son dispositif PIROPS, la plateforme d'intervention régionale de l'océan Pacifique Sud. Elle est gérée par Yvan Grayel et ses équipes.
On a envoyé des équipes pour faire des simulations de production d'eau à partir d'eau de surface, pour traiter l'eau, pour pouvoir la distribuer à des gens qui n'auraient plus accès suite à la catastrophe. Donc il y a eu une équipe qui est partie pour faire du traitement de l'eau. On a aussi eu une équipe qui a joint les services militaires pour faire du secourisme, pour appuyer sur les capacités de santé au niveau de l'armée. Et on a eu aussi une équipe qui a fait des sessions de premiers secours. Et une équipe qui a participé à sensibiliser les enfants dans les écoles aux risques liés aux catastrophes, et notamment sur tout ce qui est lié aux risques climatiques de plus en plus importants et de plus en plus intenses dans la région.
Et notez que la cérémonie de clôture de l'exercice Croix du Sud se déroule en ce moment même à la place des Cocotiers. Elle a débuté à 17h.
Un reportage signé Charlotte Coulsonf. Animation Star Wars à la Maison Cellière à Nouméa. Le jeune public était présent tout au long de l'après-midi pour le Star Wars Day organisé par les fans de science-fiction, le Sci-Fi Club. Chacun a pu s'essayer à différentes activités, notamment le Star Wars Quiz ou encore un jeu de rôle Star Wars.
Aujourd'hui, nous fêtons le Star Wars Day, the 4th of May, et c'est pour faire le jeu, en fait, May the 4th be with you. Ce qui est bien avec Star Wars, c'est qu'il y a vraiment plusieurs styles en termes de costumes. Donc on a les Jedi, on a les chasseurs de primes, des soldats en armure, en casque. Bon, peut-être pas autant aujourd'hui que ce qu'on pourrait en voir en grosse convention, mais voilà, il y a de quoi faire.
J'ai un petit mouvement de palais comme ça.
Ah ben, c'est un sabre laser, c'est l'arme iconique de l'univers Star Wars, porté par les chevaliers Jedi, ceux qui assurent la paix dans la galaxie. Le concept d'un sabre laser, bah, tout simplement, c'est, on va dire, une sorte de chevalier moderne, où on s'amuse à avoir comme une épée magique en quelque sorte, avec une lame laser qui peut trancher tout et n'importe quoi. Bon, bien évidemment, ce sont des répliques. On peut pas trancher tout et n'importe quoi, mais on s'amuse à prétendre à être des Jedi, quoi.
On est en train de jouer à Star Wars Unlimited. C'est le jeu de cartes à collectionner dans le monde de Star Wars. C'est un jeu qui est sorti l'année dernière, en fait, qui suit la mouvance des jeux de cartes à collectionner, que ce soit Magic l'Assemblée, que ce soit Pokémon, etc., etc. Et là, on est vraiment dans l'univers Star Wars et on joue sur une histoire de duel, en fait, entre les différents protagonistes phares de toute la saga.
Des propos recueillis cet après-midi par Kalinda Boaco. Et puis toujours au chapitre festif, notez une activité pleine nature qui plaira sans doute aux plus jeunes au parc zoologique et forestier. Deux histoires seront contées demain lors des Dimanches Enchantés. La première débutera à 9h30, la seconde à 10h30. 18h59, il est dans ce journal une première pause, nous allons marquer.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi. Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA Agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La fin de votre journal avec Lionel Sabot.
Et c'est une prise de parole qui était très attendue, celle de la procureure de Nîmes qui a fait le point sur le profil du meurtrier Aboubacar Cissé, assassiné la semaine dernière alors qu'il priait dans une mosquée du Gard. Le meurtrier présumé n'a toujours pas été remis aux autorités françaises. Il est encore en Italie où il a été interpellé, mais son extradition devrait être rapide. La magistrate a en tout cas décrit un homme guidé par une envie obsessionnelle de tuer une personne et d'un meurtre particulièrement violent. Aboubacar Cissé a été assassiné de 57 coups de couteau, mais rien ne permet à ce jour de supposer que la victime avait déjà croisé son agresseur qui manifestait une envie obsessionnelle de tuer, mais sans revendication idéologique. C'est ce qui explique que le parquet national antiterroriste n'a pas été saisi, explique la procureure de la République de Nîmes, Cécile Jonsac.
Il est apparu que l'agression était le résultat d'un individu ayant agi dans un contexte isolé, sans revendication idéologique, ou lien avec une organisation qui diffuserait une revendication idéologique qu'elle entendrait porter par l'intimidation ou par la terreur. Les ressorts pour agir de l'agresseur sont très vite apparus comme profondément personnels, envie de tuer, quelle que soit la cible, et fascination morbide. Les faits apparaissent donc à ce stade construits autour d'une envie obsessionnelle de tuer une personne.
Cécile Jonsac, la procureure de la République de Nîmes. Actualité judiciaire encore, l'enquête sur la série d'attaques menées depuis mi-avril contre des prisons françaises et des agents pénitentiaires progresse. 21 suspects ont été mis en examen à Paris. Les enquêteurs sont désormais convaincus que les narcotrafiquants se trouvent derrière ces actions. La piste terroriste est donc écartée. Un membre de la DZ Mafia est suspecté dans ces affaires. L'homme est actuellement incarcéré à la prison de Pontet à Avignon. William Molinier pour Europe 1.
C'est depuis sa cellule qu'il a piloté les opérations. Ce détenu a écrit le texte de revendication qui met en cause la politique carcérale de Gérald Darmanin. Selon les informations d'Europe 1, cet homme de 22 ans fait partie du groupe de narcotrafiquants de la DZ Mafia. Il est d'ailleurs sur le point d'être jugé pour des faits liés au narcobanditisme marseillais. Par ailleurs, il fait partie des 100 narcotrafiquants qui doivent être prochainement transférés dans la nouvelle prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe. 3 autres suspects ont été identifiés, soupçonnés d'être les relais à l'extérieur des murs de la prison. Eux auraient désigné les établissements pénitentiaires ainsi que les gardiens de prison à cibler. Des contrats ont été diffusés sur les réseaux sociaux et des petites mains les ont exécutés contre rémunération. En 2 semaines d'enquête, la justice est aujourd'hui convaincue que ce dossier ne relève pas du terrorisme, mais bien de la voyoucratie du spectre.
Revenons à présent sur les incidents qui sont produits à Paris en marge du défilé du 1er mai. Plusieurs militants et élus du Parti Socialiste ont été pris à partie dans le cortège parisien. Parmi eux, le député Jérôme Guedge, contraint de quitter la manifestation. L'élu attaqué parce que socialiste, mais aussi parce que de confession juive, affirme le secrétaire général du PS, Pierre Jouvet.
Je condamne avec la plus grande fermeté, comme l'ensemble des dirigeants du Parti Socialiste, ce qui est inacceptable dans notre pays, c'est qu'en 2025, on puisse, parce qu'on est socialiste et parce qu'on est juif, être sorti d'une manifestation. Ça, c'est inacceptable. Et nous le dénonçons avec la plus grande force. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que dans notre pays, nous rappelions des choses simples. L'antisémitisme, comme le racisme, ne sont pas des opinions, ce sont des délits. Et ça doit être condamné avec fermeté. Donc s'il y a des gens qui veulent agiter des relents antisémites, eh bien qu'ils soient condamnés par la justice, au Parti Socialiste, nous les dénoncerons toujours. Et nous n'avons aucune complaisance avec les actes antisémites.
Pierre Jouvet, le secrétaire général du PS, invité de Pascal de la Tour du Pin ce matin sur Europe 1. Venons-en à l'actualité à l'étranger, aux États-Unis. Quel bilan pour Donald Trump et sa politique agressive en matière de droits de douane? Un bilan contrasté pour l'instant. Si le président américain salue un début de mandat historique, sa politique protectionniste pèse lourd sur l'économie des États-Unis. Le PIB du pays s'est même contracté de 0,3% au premier trimestre. Et les grands groupes américains commencent eux aussi à ressentir les effets de ces droits de douane et revoient à la baisse leurs prévisions de résultats pour les mois à venir. Wilfried De Villers pour Europe 1.
C'est le cas de General Motors, de Procter & Gamble, Colgate et PepsiCo, des poids lourds de l'industrie américaine qui visent désormais 2 à 3% de croissance contre 10% initialement. Ces grandes entreprises subissent une double pression selon Pascal Delima, chef économiste pour le cabinet BKMC.
La première, c'est que ces droits de douane augmentent les coûts des intrants pour les entreprises qui importent, et en particulier dans l'industrie, la tech ou même l'agroalimentaire. Deuxième effet, c'est que ça génère une incertitude sur les règles du jeu commercial et donc les groupes groupe préfèrent revoir à la baisse leurs prévisions plutôt que s'exposer à des pertes ou à des chaînes logistiques perturbées.
Autre conséquence, une baisse prévue de la consommation sur les marchés internationaux, mais aussi aux États-Unis.
Ça se traduit par une hausse des prix pour les consommateurs sur les produits électroniques, les vêtements, l'alimentaire. Et donc, dans un climat d'incertitude, les ménages ont tendance à épargner davantage, différer leurs achats. C'est pas bon pour les entreprises qui, pour compenser ces ralentissements de la consommation, augmentent leurs prix un peu dans tous les secteurs.
Et si le marché du travail américain semble préservé pour l'instant avec un taux de chômage stable en avril, 4,2%, les analystes s'attendent à une dégradation notable dans les prochains mois.
Wilfried de Villers du service économie d'Europe 1. Toujours aux États-Unis, c'est confirmé par la Maison-Blanche. Donald Trump organisera bien un défilé militaire le 14 juin prochain, une date qui marquera les 250 ans de la création de l'armée de terre américaine et qui coïncidera également avec le 79e anniversaire du président des États-Unis. Le républicain entend rendre hommage avec cet événement aux vétérans américains et à l'histoire militaire. Le dernier grand défilé de ce genre s'était tenu en 1991 à Washington. C'était pour célébrer la fin de la guerre du Golfe. Il est 18h06, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, le sport et la météo.
Francs de remise tous les jours et le mardi c'est même 5 francs et des points accumulés.
Avec vos stations Shell et Pacific, bénéficiez d'une remise sur le carburant de 3 francs par litre tous les jours grâce à votre carte fidélité. Et encore mieux, c'est 5 francs par litre le mardi et tous les jours que je cumule des points qui se transforment en bons d'achat. Les stations Shell et Pacific, toujours à vos côtés pour économiser.
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 21 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atto SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés. Faisons-les rêver.
La suite de votre journal avec Lionel Sabot.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Et on va parler sport et sport mécanique pour commencer avec ce week-end. La 6e manche du championnat du monde de Formule 1, c'est le Grand Prix de Miami aux États-Unis.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et ce matin pour nous, après la séance d'essai libre, c'est couru la séance de qualification de la course sprint qui sera à suivre demain matin pour nous. Une qualification avec une belle surprise, c'est le jeune Kimi Antonelli, 18 ans. C'est le plus jeune pilote du plateau qui a signé la pole position au volant de sa Mercedes et sa toute première pole en F1. Il a devancé les McLaren d'Oscar Piastri et de Lando Norris. Et Kitty, écoutez Kimi Antonelli.
Je suis sur la lune. Je n'y attendais vraiment pas. Mais je me sentais bien dans la voiture. J'ai pu améliorer tour après tour. J'ai trouvé de la consistance et tout s'est aligné dans le dernier tour. Je suis vraiment très heureux. On va profiter de ce moment. Mais je veux aussi me concentrer sur demain car je veux essayer de faire la même chose.
Et côté français, Isaac Hadjar sur sa Racing Bull a signé le 9e temps, à 12e temps pour Esteban Ocon sur Haas, et 13e chrono pour Pierre Gasly au volant de son Alpine. La course sprint de ce Grand Prix de Miami qui comptera 19 tours sera à suivre demain matin pour nous à 3h. Elle sera suivie à 7h de la séance de qualification pour la course principale. Pour le Grand Prix à proprement parler, le Grand Prix qui comptera 57 tours et qui sera à suivre lundi matin pour nous à 7h.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Du football avec la suite demain matin pour nous de la 32e journée du championnat de France de Ligue 1. 3 matchs au programme, Strasbourg-Paris-Saint-Germain, Toulouse-Rennes et Saint-Étienne-Monaco à Geoffroy-Guichard. En ouverture de cette journée ce matin, Nice s'est imposé 1-0 sur Reims. Et puis un petit mot de Ligue 2 également, c'est toujours du football, puisque l'on connaît les deux équipes qui vont monter directement en Ligue 1 la saison prochaine. Après Lorient la semaine dernière, c'est le Paris FC qui a validé ce matin son ticket pour l'élite la saison prochaine. Il y aura aura donc la saison prochaine deux clubs parisiens en Ligue 1. Ce matin, dans le cadre de la 33e journée et avant-dernière journée de Ligue 2, le Paris FC a fait match nul, un but partout sur la pelouse de Martigues et a profité du match nul de Metz face à Rodez pour décrocher son billet pour la Ligue 1. Cela faisait plus de 40 ans qu'il n'y avait plus eu deux clubs de Paris dans l'élite. La dernière fois, c'était lors de la saison 89-90, lorsque le Racing Paris était avec le Paris Saint-Germain en ce que l'on appelait à l'époque la première division. Et puis du rugby ce week-end avec les demi-finales des Coupes européennes, la Coupe des Champions et le Challenge européen. Concernant la Coupe des Champions, à suivre demain matin la rencontre entre Leinster et Northampton. Il faudra attendre lundi matin pour suivre un choc 100% français entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain. Et puis concernant le Challenge européen, à suivre demain toujours Édimbourg-Bath et lundi matin un autre choc 100% français entre Lyon et le Racing 92. On termine avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Pierre.
Cette nuit, de belles éclaircies se développeront par endroits sur la côte est. Ailleurs, le ciel restera très nuageux à couvert, mais les pluies resteront rares et concerneront principalement l'extrême nord. Le vent de sud-est soufflera entre 15 et 20 nœuds sur la moitié sud de la Grande Terre, l'île des Pins et Marais. Ailleurs, il restera établi autour de 20 nœuds avec parfois des rafales jusqu'à 30 nœuds, temporairement 20 à 25 nœuds en soirée sur le nord-ouest. Les températures minimales seront stables ou en légère hausse avec 21 à 24 degrés en général et jusqu'à 17 degrés dans l'intérieur. Demain matin, même si de belles éclaircies resteront sur la côte est en début de matinée, les nuages seront majoritairement sur le pays. Toutefois, le temps restera sec. L'alizée de sud-est se maintiendra entre 15 et 20 nœuds sur le sud et le sud des Loyautés et jusqu'à 20 nœuds environ sur les autres régions.
Merci Pierre pour la météo, la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à 19h. Passez une très belle soirée, un très bon week-end sur RRB. À tout à l'heure.